Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 9h30 à Paris et à N'Djamena, 8h30 à Dakar.
Xavier Besson.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition d'Afrique Matin à la Une. Ces gros points d'interrogation toujours à Paris, à N'Djamena, mais aussi au Sénégal. Paris qui dit prendre acte de la décision du Tchad de mettre fin aux accords militaires qui lient les deux pays. Pas plus de précisions ce matin, mais vous entendrez dans un instant les réactions au sein de la classe politique française. Nous serons aussi à Dakar, où le président Bassirou Diomaye Faye assure que les soldats français n'ont pas vocation à rester dans le pays. Mais à quoi faut-il s'attendre précisément ? Correspondance dans quelques minutes. Dans ce journal également, la visite au Mali, au Burkina Faso et au Niger du vice-premier ministre russe en charge de l'énergie, qui n'est pas venu seul. Et puis le Rwanda, avec la présentation hier du futur tour cycliste du pays. En 2025, répétition générale avant les championnats du monde qui se tiendront au mois de septembre pour la première fois à Kigali. L'heure est donc aux réactions et aux analyses à Paris et à N'Djamena après l'annonce choc du Tchad jeudi soir qui a dit sa volonté de mettre fin aux accords militaires passés avec la France. Paris, dont la diplomatie a réagi de manière très succincte, simple communiqué dans lequel il est dit que la France prend acte de la décision des autorités de N'Djamena. Les responsables politiques, surtout dans l'opposition, sont bien plus loquaces, d'autant plus que quasiment en même temps jeudi, le président sénégalais assurait lui que les soldats français présents sur le sol de son pays n'avaient pas vocation à y rester. Raphaël Delvolvé du service politique de RFI.
La plupart des réactions viennent de la gauche. Pour la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret, la France ne perçoit pas l'évolution rapide des sociétés africaines.
On nous dit très clairement que nous faisons partie de ceux avec qui ces pays entendent peut-être travailler, mais ne sont plus du tout dans un schéma ancien aujourd'hui où on leur dit finalement ce qu'ils ont à faire.
Beaucoup plus sévère, l'insoumis Aurélien Saint Toul, il voit lui l'échec de la politique d'Emmanuel Macron en Afrique.
C'est la sanction d'une politique faite de zig et de zag, de pétitions de principe qui ne sont pas respectées. On a affaire à une politique africaine d'un cynisme total. Il y aura eu le déshonneur et la perte d'influence en même temps.
À droite, ce changement de position brutal à N'Djamena et Dakar est perçu comme un échec dans la réponse à des influences venues de Chine, de Russie, de Turquie et nourrissant le sentiment anti-français. Et ce, pas seulement chez les dirigeants, mais aussi au sein des populations. Le sénateur Les Républicains Roger Karoutchi appelle à une sérieuse réflexion.
Posons-nous la question de savoir est-ce que nous avons mis les moyens pour faire en sorte que le lien humain avec la population, avec les jeunes, se soit maintenu.
Les élus du camp d'Emmanuel Macron hors des micros disent leur surprise. Nouveau signe tendant à indiquer que les autorités françaises ont été prises de court.
Et ce matin, vous avez pu aussi entendre sur notre antenne l'opposant tchadien Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, et qui pense que cette décision du gouvernement tchadien est une humiliation subie par la France qui paye ses propres errements stratégiques. Et il souligne aussi que le Tchad, selon lui, a le droit de choisir les partenaires avec qui il souhaite travailler. Un sujet que l'on a évoqué aussi ce matin avec notre invité Afrique, Wanati Remadji, chercheur, spécialiste du bassin du lac Tchad au sein de l'Institut d'études et de sécurité. Un entretien à retrouver sur RFI.fr dans lequel il évoque parmi les futurs partenaires militaires potentiels de N'Djamena la Turquie, la Chine et pourquoi pas la Russie. Moscou, très bien implanté chez les voisins du Tchad, la Centrafrique, le Soudan, la Libye et les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, trois pays où une forte délégation russe, justement, s'est rendue ces deux derniers jours, avec à sa tête le vice-premier ministre russe en charge de l'énergie, Alexandre Novak, accompagné notamment de militaires et de représentants des services de renseignement, nous explique Paul Lorgerie.
Alexandre Novak n'a pas cessé de marteler que son pays souhaite renforcer les partenariats avec les différentes capitales du Sahel, notamment dans les domaines de l'énergie et du développement. Accompagné de représentants du monde des affaires, le vice-premier ministre en charge de l'énergie avait également emmené avec lui des membres de Rosatom, une entreprise publique russe spécialisée dans l'énergie nucléaire, ainsi que le vice-ministre de la Défense Younous Bekefkourov, ou encore le lieutenant-général Andrei Averianov, membre des services de renseignement militaire. Car au-delà des des discussions relatives aux questions de développement, le site pro-russe African Initiative rapporte que des discussions avec les différents ministres de la Défense ont eu lieu. Au cœur des négociations, le potentiel déploiement de nouveaux paramilitaires d'Africa Corps, la formation des armées sahéliennes ou encore la signature de nouveaux accords bilatéraux en matière de lutte contre le djihadisme. En amont de la visite, Moscou avait envoyé un avion cargo chargé d'armes à destination du Niger en guise de témoignage de, je cite, l'intensité et de la solidité de la coopération stratégique entre les deux pays. Un cargo du même type avait par ailleurs été envoyé au Mali le 10 novembre.
Paul Lorgerie, si elle en revient maintenant sur cette autre annonce jeudi soir qui concerne aussi le futur des soldats français déployés sur le continent africain, en l'occurrence au Sénégal, où le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a accordé des entretiens à plusieurs médias français. Il dit, en gros, que les soldats hexagonaux n'ont pas vocation à rester dans son pays. La fin de la présence de bases militaires étrangères figure par ailleurs dans le programme de son parti, le PASTEF. Mais au-delà de cette annonce, qu'en est-il réellement ? À Dakar, les explications de Léa-Lisa Westerhoff.
Aucun calendrier de retrait n'a encore été défini par le Sénégal, affirme une source à la primature. Mais dans l'entourage du pouvoir, le départ des militaires français est considéré comme une évidence. Le PASTEF a toujours prôné la fin de la base militaire française au Sénégal, tout comme de toute base étrangère. C'est une promesse de campagne. En ce sens, Bassirou Diomaye Faye n'a fait que réaffirmer ce principe. En mai dernier déjà, juste après leur arrivée au pouvoir, le Premier ministre Ousmane Sonko avait dit la détermination du Sénégal à exercer sa souveraineté. Incompatible, selon lui, avec la présence de bases militaires étrangères sur son territoire, sans pour autant remettre en cause les accords de défense signés avec des pays tiers. Reste à savoir comment ce retrait de la présence française va s'articuler. Pour l'heure, les Français avaient prévu de réduire de 300 à une centaine de militaires leur présence au Sénégal et de transformer le camp de Dakar en base franco-sénégalaise. Cette formule est-elle encore valable ? Hier, Paris gardait le silence. Bassirou Diomaye Faye, de son côté, a promis de revoir bientôt l'ensemble des coopérations militaires avec son état-major, tout en rappelant que la France reste un partenaire privilégié. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Le Sénégal, où l'on apprend que l'ancien président Macky Sall ne siégera pas dans la nouvelle Assemblée nationale, celle qui doit démarrer ses travaux lundi. Il l'a annoncé dans un communiqué publié sur le réseau social X. Macky Sall, qui était à la tête de liste de la coalition d'opposition Takuwalu et qui vit désormais au Maroc, il fait savoir qu'il démissionnera de son mandat de député à l'ouverture de la prochaine législature. Dans l'actualité ce matin également, la République démocratique du Congo et l'Est du pays où les opérations Shujaa, conjointes avec l'armée ougandaise, entrent ce matin dans leur quatrième année, des opérations qui visent depuis 2021 le groupe armé d'origine ougandaise ADF. Les ADF qui, même s'ils sont en recul, restent aujourd'hui les rebelles les plus meurtriers en RDC. Alors qu'en Ouganda, dans l'est du pays, les recherches se poursuivent. Après des glissements de terrain mortels, les secours ont trouvé 5 nouveaux corps hier, ce qui porte à 20 le nombre de victimes, alors qu'une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Enfin, un lever de rideau pour finir ce journal à Kigali a été présenté hier, l'édition 2025 du Tour cycliste du Rwanda, l'une des épreuves les plus réputées du continent. Répétition générale avant les championnats du monde qui sont prévus en septembre sur les routes rwandaises. Lucie Mouillot.
812 km et plus de 14 000 mètres de dénivelé positif attendent les coureurs du prochain Tour du Rwanda. Une course au goût particulier pour Kigali, à quelques mois des championnats du monde, explique Samson Daishimiye, président de la Fédération nationale de cyclisme.
C'est une année, pas seulement pour le Rwanda, c'est une année pour l'Afrique. C'est la première fois qu'on va avoir en septembre le World Championship Cyclisme UCI ici en Afrique. C'est touchant au cœur. C'est 2025. 17e édition, c'est quelque chose de différent pour le cyclisme au Rwanda. Très excited.
Parmi les 16 équipes déjà annoncées, beaucoup d'habitués, Israël Première Tech, Total Energy, Soudal Quickstep Développement, revenus se tester à la 7e étape sur le circuit des championnats du monde. Freddy Kamuzinzi, directeur du Tour du Rwanda.
C'est tout à fait logique. Maintenant, on ne fait que 73 km, alors que pour les mondiaux, on est aux alentours de 250 km. Mais ce sera quand même l'opportunité de pouvoir s'exprimer et se frotter en fait à ce circuit.
Objectif des coureurs, prendre une longueur d'avance pour les championnats du monde, notamment pour les cyclistes africains, particulièrement représentés cette année avec 3 équipes continentales et 5 équipes nationales, dont le Rwanda, l'Éthiopie et l'Érythrée. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
À Kigali, il est 10h40. Passez une excellente journée à l'écoute des RFI.